C'est qui ce Périgourdin ?
Happy Radio.
Bonjour à tous et bienvenue dans C'est qui ce Périgourdin, votre rendez-vous du week-end sur Happy Radio où l'on part à la rencontre de celles et ceux qui font vibrer notre région. Aujourd'hui, place à la musique et plus particulièrement au blues rock avec un invité qui fait partie d'un groupe originaire de Dordogne et qui s'est forgé une belle réputation bien au-delà de nos frontières locales. Hervé Fernandez, chanteur, guitariste et fondateur du groupe The Bluebirds. On en peut dire fondateur ?
Oui, bien sûr, oui.
Vous êtes déjà 5 albums, il me semble. Vous avez déjà foulé de nombreuses scènes en France, en Europe et encore ailleurs.
Oui.
Votre musique, pour moi, ça sent vraiment beaucoup le rock, j'aime beaucoup ça. On est très heureux de vous avoir au micro d'Happy Radio et surtout, on vous dit bonjour et bienvenue.
Merci, c'est moi qui suis fort honoré d'être ici aujourd'hui. Je m'appelle Hervé Fernandez, j'ai 54 ans, j'habite en Dordogne parce que mes parents étaient originaires de Dordogne. Et puis j'ai toujours voyagé depuis enfant, puisque mon père était militaire, donc on a beaucoup voyagé en Europe. Et voilà, j'étais sensibilisé à la musique américaine depuis mon plus jeune âge sur les bases OTAN en fait.
Et comment ça a démarré ? Parce qu'il y a beaucoup de gens qui aiment la musique à la base, mais qui vont pas rentrer dedans en fait. Qu'est-ce qui s'est passé ?
Alors ce qui s'est passé, c'est que vers l'âge de 10-11 ans, j'ai commencé à faire du piano classique.
D'accord.
Et puis, mon frère, j'ai un grand frère qui a 7 ans de plus que moi, qui lui, dans la chambre d'en face, écoutait Jimi Hendrix, écoutait Muddy Waters, écoutait du blues, quoi, de la guitare. Et ça m'a dit, oh là là, non, là, il faut tout de suite arrêter le piano et passer à la guitare, quoi.
Mais c'était quand même peut-être une introduction à la musique, le piano. Il fallait passer par là,
bien
peut-être.
Sûr. Oui, bien sûr. J'ai appris quand même pas mal de bases techniques, le solfège notamment, solfège rythmique, parce que j'ai commencé par ça. Et puis après, j'ai vite bifurqué sur la guitare, ouais.
Et qu'est-ce qui s'est passé ensuite ? Est-ce que vous avez eu le groupe d'adolescents, comme beaucoup de gens ont eu, dans un garage, et après ça a évolué ?
Alors, j'ai beaucoup, beaucoup travaillé dans ma chambre tout seul, à tourner et retourner les vinyles. À l'époque, c'était comme ça qu'on travaillait, hein. On avait une platine vinyle, comme je vois que vous avez ici dans le studio. Là.
Tout à fait, ouais.
Et on retournait les galettes, quoi, jusqu'à les user, à essayer de comprendre comment les musiciens faisaient pour arriver à avoir ce son. Et puis, voilà, quoi, c'était surtout Jimi Hendrix, Stevie Ray Vaughan, enfin des gens comme ça, quoi.
Donc c'était vraiment l'envie d'avoir un son particulier à la base.
Oui, moi j'ai toujours été très sensible à la voix et au son, plus qu'au phrasé.
Alors est-ce que vous pouvez nous parler des premiers titres, les premières choses qui vous ont lancé, on va dire ?
Qui m'ont lancé moi ou qui m'ont inspiré plutôt ?
Parlons plutôt de votre carrière à vous,
oui.
Pour ça.
Alors disons que jusqu'à 24-25 ans, j'ai beaucoup travaillé pour essayer d'avoir un niveau. Et puis, en même temps, en parallèle, j'avais une carrière, enfin, je faisais des études, quoi. J'ai eu un diplôme d'études supérieures. Et puis, après, à l'issue du diplôme, j'ai fait l'armée. À l'époque, on faisait encore l'armée.
C'était obligatoire.
C'était obligatoire. Puis, avec un permis militaire,
c'était obligatoire
pas
aussi.
Pas forcément passé.
C'était vraiment obligatoire.
Au travers des mailles du filet.
Bien sûr.
Et à l'issue du service national, donc, je me suis dit, je vais aller où ça se passe. Et là où ça se passe pour moi, c'est dans le sud des États-Unis, parce que cette musique-là, elle vient de là. Donc, on est en 95, fin 95, je pars pour Austin, Texas, là où ce qui est quand même le creuset de,
ouais, vous êtes allé dans le dur.
De beaucoup de guitaristes là-bas. Ouais.
Vous êtes resté combien de temps ?
Alors là, quelques mois, et puis je suis rentré, et puis là, j'étais vraiment mordu, quoi, j'avais le virus, j'ai commencé à avoir des contacts, et puis tout s'est enchaîné après, quoi, ça, dans une certaine logique, j'ai gardé les contacts, je suis reparti, j'ai commencé à travailler avec des musiciens américains, et puis voilà, on est en 2025, et j'ai 54 ans, et ça continue.
Donc sans ce voyage-là, pour vous, il n'y aurait pas eu cette, disons, vie après ?
Ah oui, c'est certain, ouais. C'est certain. Ouais. Ouais. C'est là où j'ai découvert les clubs, où ça joue tous les soirs, où ça jam, c'est là qu'on apprend le métier, quoi, en fait, hein. C'est là où ça se passe.
Et donc c'est bien d'être né en Dordogne, mais il fallait quand même s'exporter malgré tout,
tout
pour
fait.
Aller voir ailleurs,
ouais,
on va dire.
C'est ça. Alors moi, je ne suis pas né en Dordogne, hein. Je suis né un peu sur la route, parce que
mes parents se
baladaient un peu partout en France. Je suis né à côté de Lyon, à Bourg-en-Bresse.
D'accord.
Mais je venais, comme mes parents étaient originaires de Dordogne, toutes les vacances, on les passait ici, quoi.
Alors parlez-nous un peu, revenons un peu sur votre carrière, parlez-nous un peu des premiers titres que vous avez faits, les premières collaborations aussi peut-être.
Alors j'ai commencé en trio en France, hein, et puis après à l'issue des multiples rencontres que j'ai pu faire, le premier album que j'ai enregistré avec un Américain c'est en 2009, c'est avec Randy Cohen, son nom de scène c'est 19th Street Red.
C'est quelqu'un de connu dans sa sphère ?
C'est quelqu'un de connu dans sa sphère, oui, tout à fait, ouais, qui habitait à la Nouvelle-Orléans et qui est...
Un berceau de la musique, la Nouvelle-Orléans.
Ouais, là j'ai passé énormément de temps, j'ai passé presque 3 ans entre 2010 et 2014 à bosser là-bas et à produire, à jouer. Et donc Randy, lui, c'est vraiment Roots, Blues, Mississippi. Donc on a enregistré cet album-là en 2009, en live, 10 ou 11 titres, il me semble. On a enregistré ça en une après-midi, en fait.
Oui, mais c'est souvent ça, j'ai l'impression.
En live dans le studio, parce qu'on avait tellement l'habitude de jouer ensemble que bon, on n'a pas eu besoin de beaucoup travailler, quoi. On a mis les micros et puis. Voilà.
Il y a eu beaucoup de rencontres comme ça au fil de votre carrière
qui
ont été
Bah oui, à force de passer du temps là-bas et de jouer dans les clubs, on rencontre quelqu'un, puis quelqu'un d'autre qui vous amène sur un projet, un autre projet, et puis voilà quoi.
Mais vous parlez anglais aussi, ça c'est évident, j'imagine. Sûr, ouais. Vous avez dû parler anglais dès le début.
Oui, ça m'a beaucoup aidé. Oui.
Ouais,
ça m'a
beaucoup aidé. C'est grâce au niveau scolaire ou c'est le premier voyage
Le premier voyage, c'était vraiment de l'immersion. Ouais. C'est-à-dire d'accord. Quand on arrive à Austin ou à Houston, ou à Dallas, enfin dans le sud des États-Unis, particulièrement au Texas, c'est un peu quand on est français qu'on arrive à Marseille. C'est-à-dire qu'on sait parler français, mais on comprend rien.
Tout à fait. On est pas dans la culture. Voilà. Alors que
le Texas, c'est un peu français. Ça. C'est-à-dire que vous savez parler un anglais à peu près académique que vous avez appris au long de votre scolarité. Sauf qu'en fait, quand vous arrivez, vous comprenez rien. Parce qu'ils ont un accent, à couper au couteau. Et puis voilà. Puis au fil du temps, on s'habitue. Et puis voilà, quoi.
Mais au bout de quelques mois, ça allait déjà mieux.
Oui, bien sûr. Et puis la musique, c'est un langage universel qui permet de se comprendre.
Effectivement,
tout le monde.
Ça a dû aider. Revenons un peu sur donc vos premiers sons, vos premiers albums. On va peut-être pouvoir en écouter pendant qu'on discute.
Bien sûr.
Est-ce qu'on aurait quelques extraits là que
bien sûr, bien sûr.
Dans un petit sens chronologique, commençons par les plus jeunes.
Ouais. Donc là, c'est un titre avec donc Randy, 19th Street Red, qui s'appelle She's Fine.
Ok. Alors, parlez-nous un peu de la chanson. Moi, j'aime bien faire ça. Hein. Je pense qu'on va faire ça à chaque fois. Mais...
Je crois que. Alors, je suis pas sûr, hein, parce que là, vous me prenez un peu.
Puis
ça fait un moment que ça fait le projet quand même.
Les sons des artistes,
ouais,
c'est vrai.
C'était en 2009. Je crois que c'est Jimmy Reed. Je crois que c'est une chanson de Jimmy Reed, qui est un bluesman de référence qu'on adore tous.
Ouais.
Qui est hyper roots, mais bourré de feeling. Et puis, c'est les bases de la guitare rythmique pour moi dans le blues, Jimmy Reed.
Bah, on écoute ça ensemble.
Avec plaisir. Texarkana down for New Orleans. Met the prettiest little gal I ever has seen. She fine. She fine. Yeah, she fine, so fine. I'm glad, so glad she is mine. Her skin touched softly as a California breeze. I met my baby on a Louisiana street. She fine. Yeah, she fine. Yeah, she fine, so fine. I'm glad, so glad she is mine.
C'était clair pour tout le monde. Passons à un autre son peut-être que vous avez dans votre carrière, qui vous a marqué dans la chronologie après 2009. Qu'est-ce que vous avez ?
Après 2009, je fais une rencontre pour moi qui est majeure à New Orleans avec un pianiste qui s'appelle Tom Worrell, qui est un grand pianiste de la Nouvelle-Orléans et qui est devenu un grand frère pour moi, qui a une quinzaine d'années de plus que moi. Et puis on ne s'est plus quitté, on est toujours en contact. Et on a fait beaucoup, beaucoup de projets ensemble. On a beaucoup tourné là-bas, à deux et en groupe. Et puis, ensemble, on monte un groupe qui s'appelle Ventura 66. Ventura 66, c'est une voiture en fait. Ventura 66, c'est la voiture du batteur.
Vous étiez tous les deux fans de voitures
ou... Oui. Et puis il y a un batteur à New Orleans qui s'appelle Doug Garrison, qui a cette Pontiac Ventura 66 et qui est un excellent batteur. C'est le batteur des Iguanas, un groupe mythique de la Nouvelle-Orléans. Et puis on a commencé à sympathiser tous les trois et puis jouer ensemble. Et puis Doug a dit « Ah, moi je veux être votre batteur, rock'n'roll à l'ancienne, j'ai envie d'en faire, blues. » Et puis on a recruté un bassiste, s'appelle Jeff Bridges, qui est un homonyme de l'acteur, c'est pas lui. Mais c'est un excellent bassiste et un père copain. Et on a monté ce quartet qui s'appelle Ventura 66.
Donc il y a un son particulier que vous avez envie de faire écouter.
Ah oui, il y a un son particulier que j'ai envie de vous faire écouter. C'est un titre de Sleepy LaBeef, qui est un bluesman de Louisiane.
Le nom
aussi
est rigolo.
Oui, Sleepy LaBeef, et qui s'appelle Tore Up Over You.
Ok, ça vous rappelle quoi ce son-là? Parce que j'ai mis nous levé en tête.
Alors moi, ça me rappelle une anecdote, c'est qu'on est dans un club, on doit jouer le soir, et puis le sondier, enfin l'ingénieur du son qui est là pour faire la balance, nous dit « Ah, j'ai un très bon enregistreur numérique derrière la table, si vous voulez, on peut enregistrer. » J'ai dit « Banco, oui, oui. » Et on a joué en direct et on a enregistré 4 titres avec lui, comme ça, juste avant le concert.
Donc c'était vraiment dans le
pareil,
flux, quoi.
Dans le feu de l'action, pas répété, on a envoyé les chevaux et voilà.
Pour vous, c'était vraiment... Bon, ça doit être un bon souvenir.
Voilà. Ah, excellent.
Bon, on va écouter ce souvenir. C'est ça qui est beau avec la
avec
radio.
Plaisir.
On peut écouter ça.
Avec plaisir.
On écoute ça maintenant. Continuons un peu, j'imagine, chronologiquement. On était à quelle date à peu près que ce
là, on est fin 2011.
Ouais, ok, d'accord.
Ventura 66, on est fin 2011.
Est-ce que vous sentez déjà des bah vous qui êtes arrivé donc dans les années 90, vous sentez déjà des différences dans la musique à ce moment-là aux États-Unis, des mouvements, des choses qui avancent?
Alors c'est tellement vaste. Je vous dirais que moi, en ce qui me concerne, le blues et le rock and roll, c'est une musique qui est, je dirais aujourd'hui, timeless music. C'est un peu une musique un peu comme le classique. Alors effectivement, oui, ça a évolué, puisque les portes, il y a eu des portes flambeaux des années 80 qui ont fait quand même revenir cette musique-là sur le devant de la scène, comme Robert Cray, comme Stevie Ray Vaughan, évidemment, qui étaient vraiment des poids lourds là-bas.
C'est là pour montrer.
Ouais. Mm-hmm. Et puis après, il y a eu un petit creux de la vague, je dirais, entre 95 et 2000-2005.
Ouais. Parce qu'il y a beaucoup de bébés de trous de rock qui sont nés.
Et puis après, le blues a toujours fait, ça a toujours fait des vagues. Hein, mais c'est une musique qui est toujours là, qui est toujours présente, puisque c'est quand même les racines de la musique actuelle. Sans le blues, pas de rock'n'roll, sans rock'n'roll,
exactement.
Pas de pop, sans pop, pas de musique actuelle. Quoi.
Pour revenir donc à ce qu'on disait, donc après 2011, mm-hmm. qu'est-ce que vous avez fait?
Alors, qu'est-ce que j'ai fait après 2011? Ben, je suis rentré, puis je suis reparti.
Ça a été ça, j'imagine, pendant tout le trajet, en fait.
Oui, oui, oui. Je suis donc toujours sur le projet Ventura 66. Et puis, on rencontre un chanteur, super chanteur de Memphis, noir américain, qui s'appelle Del Blade, grand chanteur de gospel, grand chanteur de blues qui s'ignorait, parce qu'en fait, lui, il chantait dans les églises depuis l'âge de 4 ans.
Tout chanteur qui s'ignore. Non plus, vous chantez pas.
Alors au départ, moi, je chantais pas, non, je faisais que des chœurs. Mais Del, c'était un grand chanteur de gospel, mais il avait jamais vraiment chanté du blues. Et puis on enregistre, voilà, pareil, on se rencontre, le courant passe bien, et puis on enregistre.
Est-ce que ça marque pour vous, ça?
Alors, ça marque...
C'est une rencontre, j'imagine,
c'est
déjà.
C'est une super rencontre, ouais. Et c'est l'occasion de jouer avec un chanteur immense, quoi.
Ouais, c'est impressionnant.
Le studio, on avait tous les frissons quand il chantait, quoi. On enregistrait tous ensemble, toujours pareil, à l'ancienne, mm-hmm. live. Et c'est des frissons partout, quoi.
Quel titre vous allez nous faire écouter?
Alors là, c'est une compo à moi. C'est un titre que j'ai écrit et que j'ai fini de co-écrire avec Dale, qui s'appelle « Time to make a change ».
D'accord. Et est-ce qu'on peut avoir un peu de bribe de la chanson? Ça parle de quoi?
Ça parle de changement
personnel.
Nécessaire pour avancer dans la vie, pour cheminer. Ouais.
On écoute ça tout de suite.
Change, a change that'll help us see how we
J'imagine que vous n'avez pas arrêté de travailler avec plein de gens différents.
Non.
Ouais. Ça a continué ?
Oui, ça a continué, parce qu'après, je suis reparti tourner avec un autre bluesman qui s'appelle Johnny Sanson,
okay.
Avec qui on a fait des tournées là-bas aux US. Pareil,
ça doit être une ambiance particulière.
Mississippi, ça. Texas, Louisiane. Et puis, avec qui on a tourné en Europe aussi. Je rencontre aussi Spencer Boren, qui est un grand bluesman de la Nouvelle-Orléans. Et malheureusement, est décédé en 2019, mais avec qui j'ai eu la chance de tourner et d'enregistrer. Alors, j'ai une anecdote à ce sujet qui est la suivante, c'est qu'en fait, on jouait pour un festival, on était en France, on jouait à Paris, on jouait au New Morning à Paris, et on avait quelques dates à faire en Dordogne aussi, et le titre qu'on va écouter ensemble, qui s'appelle « Wade in the Water », était enregistré au Lambarzik. On a joué au Lambarzik.
D'accord.
Donc voilà la connexion entre Bergerac et le blues.
Et
aussi,
une sacrée
là.
Connexion parce que le Lambarzik met sur le devant de la scène plein d'artistes.
Oui, oui. Et d'ailleurs, je tiens à saluer Matt parce qu'il a fait un super boulot d'enregistrement aussi.
Effectivement.
Je savais pas qu'il a enregistré.
Et il a fait du matériel.
Voilà, il a fait un super boulot et c'est quelqu'un de très gentil que j'aime beaucoup.
On l'embrasse et je l'aime beaucoup aussi. Beaucoup de ma jeune vie a été passée dans ce bar. Donc, on revient sur le son,
oui.
Le nom, et on le lance.
Wade in the Water.
C'est parti.
Oui, merci.
Joshua fought the battle of Jericho. Joshua gave the order for the horns to blow. Joshua gave the order and the wall fell.
Alors je sais pas, j'ai pas posé la question sur le son qu'on vient d'écouter, c'était en quelle année ça?
Wade in the Water, Lambarzik, je crois que c'est 2015.
Ah, il est là depuis longtemps ce matin.
Oui, oui, oui.
Je crois que le prochain titre, vous avez une sacrée anecdote, un peu triste, mais quand même à nous raconter sur ce titre-là.
Oui. Alors là on est en 2015, je crois, à peu près.
Ouais, c'est ça.
Et j'ai un coup de fil de Tom, mon ami pianiste à Nouvelle-Orléans, il me dit... Oh, j'ai vu une chanteuse là dans un club impressionnante. Il faudrait qu'on puisse enregistrer avec elle. Je dis bah écoute, moi j'étais pas sur place à l'époque. Je dis bah tu vas la voir et puis tu lui proposes le projet. On essaye de se réunir et puis on en parle et on essaye de faire ça. Et puis il la contacte, il va la voir et puis elle était partante. Je dis bah banco. Ils sont en tournée en Europe, donc on les récupère et puis on organise ça en studio. Et là voilà, c'est parti. On enregistre un album. Je crois qu'il y a 9 titres. Pareil, enregistré en quelques jours avec une chanteuse. Pour moi, C'est une des plus grandes aujourd'hui chanteuses blanches de cette musique-là, qui a un feeling entre Bess Hart et Janis Joplin, un peu moins agressive à mon goût que Bess Hart, plus une voix un peu plus chaude. J'aime beaucoup Bess Hart, hein. c'est pas une critique. Non, mais justement la différence, elle est là, et je trouve que dans cette différence-là, Dana a vraiment sa place sur le toit du monde, parce que franchement, c'est quand même quelqu'un d'exceptionnel. Nous, on est derrière, moi je produis, je fais les guitares, les arrangements, mais gros du boulot, c'est elle est tellement immense que c'est beau, impressionnant.
Ça sent que vous êtes tombé amoureux de sa voix. Hein.
C'est impressionnant. Hein. Ouais.
Mais bon, tout est rose, tout est beau là dans ce qu'on dit. Hein.
Et malheureusement non, parce que l'album est fini, il est mixé, il est en boîte, il est masterisé. On fait ça dans un studio justement en Dordogne avec un vieux complice à moi qui s'appelle Jean-Paul, que je salue, qui est plus qu'un ami, qui m'a beaucoup aidé par ailleurs dans le processus de récupération dont
on parlera après
tout à l'heure. Ouais. Et donc l'album est prêt, je l'envoie un peu partout, notamment dans un gros label à Chicago qui s'appelle Alligator Records. Je l'envoie à Bruce Aglauer, le patron, hein, qui est quand même réputé dans le métier puisqu'il a produit des gens comme Coco Taylor. Enfin, plein de gens très connus. Et il m'envoie une magnifique lettre, me disant « C'est super, vous avez fait un super boulot, mais comment c'est possible? D'où ça vient? D'où elle vient cette chanteuse? » Tout ça. Et là, bim, Covid.
Fin de l'histoire.
Fin de l'histoire, tout s'arrête. On est dans les startings et tout s'arrête. Le
d'un
business s'arrête, les tournées s'arrêtent, les prods s'arrêtent, les budgets s'arrêtent, tout s'arrête.
Et donc on en reste là.
On en reste là et sur ce, Dana disparaît.
Ah oui,
Dana disparaît des radars à la Nouvelle-Orléans, on la perd de vue. Elle disparaît, on est en 2016-2017,
ouais.
2018 peut-être l'enregistrement. Elle disparaît, elle réapparaît en 2025.
Après le Covid.
Elle réapparaît
après
en 2025, il y a quelques mois, sur les réseaux. Et elle m'envoie un message en me disant...
Je suis vivante.
Je suis vivante, il faut qu'on réenregistre, il faut qu'on fasse quelque chose. Et là, moi, malheureusement, sur les routes de Dordogne, j'ai un accident de moto.
Comme ça peut arriver
fin
sur les
novembre,
routes de Dordogne.
Oui, j'évite un tracteur pour pas le percuter. Je tombe et je me fracasse la main gauche. Donc, je perds l'usage de mon petit doigt, plus la moitié de l'usage de l'annulaire. Et c'est le début d'un calvaire dans lequel je suis encore, mais je vais en sortir. Enfin, j'en sors, je travaille énormément. Et c'est là que je tiens aussi à remercier... mes amis de très longue date que sont Jean-Paul du studio qui m'a beaucoup aidé. Après la deuxième opération, deux jours après, je suis en studio à jouer avec lui d'un doigt. Il me pousse, les larmes aux yeux, pétri de douleur, mais j'y vais quand même. On est en train de remonter la pente, quoi.
C'est salvateur, tout ça, j'imagine.
C'est salvateur, ouais. Ouais. Et la vie ne s'arrête pas, et puis les projets vont continuer. Peut-être un peu différemment, mais ça va continuer. Je tiens à saluer aussi un batteur avec qui je travaille depuis des années, qui s'appelle Philippe Eliez, qui est bien connu en Dordogne, qui est quelqu'un d'adorable, grand professionnel, un grand batteur, avec qui on a fait beaucoup de projets avec les Américains, que j'aime beaucoup aussi, hein, c'est ma famille, tout ça. Donc voilà, je tiens à saluer ces personnes qui m'ont beaucoup aidé. Et puis on va écouter Dana Abbott, parce que c'est fabuleux.
Ouais. Et puis il faut rester tourné vers l'avenir.
Bien sûr, bien sûr.
Grâce à elle.
Grâce à elle, notamment.
On revient juste après ça.
Walk the streets tonight, you on my mind. All I do is run around and cry. And oh baby, baby, what's wrong? Oh Lord, someone told me you ought to get your baby back home. Stop crying. Yeah, I'll cry. You have someone new, but I'm still in love with you. That's why I'll cry. I'll cry. Winter, summer, them places we
used to go. Your friends all told me you don't come around here no more. Look over yonder, it's who I see. I saw that same old woman taking you away from me. Oh, that's why I'm crying. Yeah, that's why I'm crying. You have someone new, but I'm still in love with you. That's why I'm crying. Crying. Let me tell you, darling, I've gotta stop crying. Oh, baby, you know it's true. Oh, baby, you know that it's true. I let you give me one. Am I still in love with you? That's why I'm crying.
Maintenant, on va peut-être parler un peu de vos projets perso, parce que là, ce qu'on va écouter, je crois que c'est complètement vous.
Oui, fait. Alors j'ai un petit volet aussi que je me réserve sur des choses que j'aime bien faire, et toujours avec mes deux complices que sont Philippe et Jean-Paul. Là, j'ai enregistré quelques morceaux pour moi, des compos que j'avais, des idées de riff. Là c'est un instrumental, c'est un hommage à un guitariste, un Texan encore, qui s'appelle Sam Lightning Hopkins. Le titre s'appelle Lightning Boogie. Et voilà, c'est avec aussi il y a un chorus de saxophone. Super. Avec un ami à moi de New Orleans qui maintenant habite à Las Vegas, qui s'appelle Jimmy Carpenter, qui est un immense saxophoniste et qui a eu un Grammy Award d'ailleurs, faut le signaler.
Oui, c'est important là.
qui est sur l'enregistrement avec nous, quoi. Et voilà, ce que je peux dire.
C'est très agréable. Je
Lightning Stamp.
Et on laisse écouter nos auditeurs. We'll be right back. Là, on va repartir, je crois, sur un son que vous aimez beaucoup, que vous avez fait récemment.
Oui, juste avant l'accident, ouais.
Ouais.
Ouais, juste avant l'accident, on était en train de le mixer. Heureusement, j'avais fini les parties guitare et il me restait que le chant à faire. C'est un titre qui s'appelle That's How I Got to Memphis, qui est bah qui a été adapté par Eddie Mitchell, il me semble, dans les années 70. J'en suis sûr même sur la route de Memphis. Et là, en fait, c'est ma version plus conforme à l'original, parce que moi, j'aime bien chanter en anglais. Hein. C'est pour moi, c'est important.
Qu'est-ce qui fait que vous aimez autant cette chanson, c'est les accords, les arrangements. Qu'est-ce que vous avez changé?
Oui, c'est les accords. Oui, c'est, je trouve que c'est vraiment une chanson. C'est une chanson désespérée. Et j'aime les chansons désespérées.
On aime la tristesse et la mélancolie.
C'est ça. On aime autant la joie que la tristesse et la mélancolie. En fait, c'est des feelings qu'on retrouve beaucoup dans le blues. Hein, parce que c'est pas que des sentiments négatifs. Hein. Il y a aussi beaucoup de positifs dans le blues et puis surtout beaucoup d'humour de second degré. Il y a un métalangage dans le blues, il y a un deuxième degré du blues dans les paroles qui est toujours assez humoristique quand on se penche dessus.
Faut essayer de s'y pencher.
C'est ça.
On écoute ça tout de suite.
If you love somebody enough, you follow wherever they go. That's how I got to Memphis. That's how I got to Memphis. If you need somebody enough, you go where your heart wants to go. That's how I got to Memphis. That's how I got to Memphis. I know if you see now, tell me, 'cause you are my friend. I got to find her and find out the trouble she's in. If you tell me that she's not here, I follow the trail of her tears. That's how I got to Memphis. That's how I got to Memphis. She would get mad and she used to say she'd come back to Memphis someday. That's how I got to Memphis. That's how I got to Memphis. A bite or slip for 3 days and nights. That's how I got to Memphis. That's how I got to Memphis. I got to find her and tell her that I love her so. I'll never rest till I find out why she had to go. Precious time, forgive me if I start to cry. That's how I got to Memphis. 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 That's how I got to Memphis, baby. That's how I got to. That's how I got to Memphis.
Merci beaucoup Hervé de nous avoir partagé.
C'est moi qui vous remercie, c'était un super moment. J'espère pouvoir revenir et jouer en live.
J'espère aussi pour l'avenir.
Ce serait bien.
J'aimerais
serait
vous bien. Demander, oui. En un mot, comment vous voudriez résumer tout ce que vous avez vécu jusqu'à présent dans la musique? Vous avez eu le temps de réfléchir.
Oui. Mais alors moi, je dirais, je suis en train de voir sur votre mur derrière Happy Radio. Moi, je dirais Happy Musician, musicien heureux, parce que j'ai eu la chance de faire des projets magnifiques avec des gens super.
Il y a quand même beaucoup la redondance de les gens. C'est important d'avoir
les
des
rencontres,
gens.
Les bien rencontres, bien sûr, bien sûr. Bah, on ne fait rien tout seul dans la vie. On les gens qui disent « je me suis fait tout seul », ça n'existe pas. Ça n'existe pas.
Ça n'existe pas.
Mais non, la vie n'est qu'interaction sociale.
Donc,
tout seul, on meurt. Tout seul, on meurt de tristesse.
La joie et le partage.
La joie et le partage, bien sûr. Ouais. Ouais, ouais. Moi, j'ai eu la chance. Bon, après, c'est beaucoup de travail, évidemment. Hein, mais à la base, c'est l'envie de faire les projets. L'envie d'être avec les gens, de partager et puis d'essayer d'aller vers un monde un peu meilleur, quoi, parce que je crois que quand on regarde l'actualité, ça fait du bien d'être dans sa bulle de musicien quand même, quand on peut, hein. Il y a tellement de gens qui peuvent pas. Moi, j'ai la chance d'avoir pu, de pouvoir et peut-être de continuer. J'espère que je vais pouvoir continuer, d'ailleurs je vais continuer. Donc voilà ce que je peux dire, quoi. C'est de la joie.
Merci
et
à la
encore
musique.
De la joie. Merci la musique et du travail et de la joie.
Merci beaucoup à vous, pardon, d'avoir été avec nous aujourd'hui dans C'est qui ce Périgourdin. Je vais rappeler aussi que toutes les chansons qu'on entend vont être donc dans la scène régionale. Donc tous les jours à 20h, on va pouvoir, à mon avis, entendre une ou deux chansons à vous. Ça va être un grand plaisir.
Super.
Et puis on vous souhaite plein de succès pour la suite.
Merci beaucoup.
Et d'aller beaucoup mieux. C'est ça qui est important.
Merci.
Et de continuer à faire de la musique.
Ça va aller.
Voilà. Merci encore.
Merci.
Je rappelle que cette chronique est à écouter et réécouter sur le site apiradio.fr. Et moi, je vous souhaite une bonne journée ou une bonne semaine à tous.
C'est qui ce Périgourdin ?
Happy Radio.